VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Niger, on report au 13 mars du procès de l'affaire de trafic international de bébés dans laquelle est impliqué le principal opposant nigérien, Mahamadou. Décision prise par le tribunal à la demande des avocats des prévenus peu après son ouverture ce lundi à Niamey. Nous n'avons pas encore reçu les réquisitions du procureur général et tant que nous n'avons pas ces documents, nous ne pouvons pas au stade actuel plaider le dossier, a expliqué Maître Ali Kadri, un des avocats de la défense. Mahamadou est poursuivi pour une affaire de trafic d'enfants qui empoisonne le climat politique nigérien depuis 2 ans et dans laquelle une vingtaine de personnes sont impliquées, dont un ex-ministre, des banquiers, des hommes d'affaires, un officier de l'armée ainsi que leurs épouses. Le leader d'opposition était le seul absent dans le box des accusés. Malade, Mahamadou avait été évacué d'urgence le 16 mars 2016 depuis sa prison au Niger pour la France. Candidat à la présidentielle de 2016, il n'avait pas pu faire campagne. Il a été battu par le président sortant Mahamadou Issoufou au second tour. Mahamadou n'est toujours pas rentré au pays natal. Au Mali, fin de la grève illimitée des magistrats suite aux travaux de la commission de conciliation qui a permis un accord entre le gouvernement et les grévistes. Siaka Koulibaly, vice-président du syndicat libre de la magistrature Silima, fait le point sur les résultats des négociations avec les autorités.
Un accord partiel, premièrement sur le salaire, un accord sur l'indemnité de judicature, un accord sur l'indemnité de logement, un désaccord total sur l'indemnité de mouture. L'accord est entier entre le gouvernement et nous sur toutes les questions d'ordre institutionnel. La signature du PV de conciliation, à notre sens, n'est qu'une formalité.
Siaka Koulibaly, vice-président du syndicat libre de la magistrature Silima au Mali. En Côte d'Ivoire, 6 journalistes, dont 3 patrons de presse, interpellés et incarcérés depuis hier dans un camp de gendarmerie d'Abidjan pour leur couverture de la récente mutinerie de soldats, selon le procureur de la République. Une déclaration de ce dernier, lue à la télévision nationale, fait état de divulgation de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte. Sont actuellement sous les verrous Vamara Koulibaly, directeur de publication de Soir Info, Yacouba Gbani, directeur du quotidien Le Temps, et Franck Bamba Mamadou, directeur de Notre Voix. Ces patrons sont détenus en même temps que leurs collaborateurs Amadou Ziao, Jean-Bedel Niago et Ferdinand Bailly. On passe à l'Afrique centrale. En RCA, retour au calme à Bambari, dans le centre du pays, après l'intervention musclée de la MINUSCA, la force onusienne, ce week-end, pour protéger les populations face à la progression des combattants du FPRC de Noureddine Adam en direction de la ville. Depuis une semaine, les combats entre 2 factions rivales de l'ex-rébellion Seleka ont fait au moins 20 morts dans la région. Le point sur la situation à Bambari avec Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA à Bangui.
La situation à Bambari est calme. La population, elle va casser ses occupations, même s'il y a une certaine tension. Par contre, il y a eu cette opération menée par notre force près de la localité d'Ipi, à quelques 65-70 kilomètres à l'est de Bambari. Notre force a dû intervenir suite à la violation par le FPRC et sa coalition d'une ligne rouge qui avait été établi, et nous avons estimé que cette violation représentait une menace sur la ville de Bambari. C'était une avancée sur la ville d'Ipi, où se trouvent des éléments de l'UPC. Donc c'était une tentative de la coalition du FPRC, de M. Noureddine Adam, vers cette ville, d'où notre intervention. Des combats ont eu lieu ces dernières semaines dans certaines localités entre Bria et Ipi. Il y a eu, il y a quelques semaines, des combats à Bakar. Nous intervenons de manière impartiale pour protéger les populations de Bambari.
Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, les formations politiques de la majorité et de l'opposition ont accueilli favorablement la loi sur le financement des partis. Plusieurs leaders de l'opposition estiment que la régularité des scrutins permettra d'identifier les vrais partis qui doivent bénéficier de l'argent public. Selon notre correspondant sur place, Nguela Ngoussou, l'État a promis de financer les partis politiques à hauteur de 1 milliard de francs CFA au titre de l'année 2017.
Dans les rues de Brazzaville, les Congolais estiment que ces financements vont contribuer à l'efficacité de l'action des partis politiques. Nombreux, en effet, ne fonctionnent que grâce à l'argent qu'apporte leur président.
Je pense que le financement de la démocratie, c'est une très bonne chose. C'est ce que d'ailleurs tous les partis souhaitaient depuis. D'autant plus qu'il existait déjà au moins 9 qui, déjà de façon officieuse, bénéficiaient de cette subvention de l'État.
L'argent qui sera remis aux partis politiques, c'est pour la bonne marche du pays. Non, c'est pas pour faire la pagaille.
Pour le président du parti CDR, Bonaventure Bounzika, il ne s'agit pas de se réjouir comme si l'État avait distribué de l'argent au parti.
Il faut désenchanter, il n'y a pas à fêter parce qu'il ne s'agit pas d'un don. En réalité, il ne suffit pas d'avoir un parti politique pour prétendre bénéficier du financement de l'État. Il faut remplir un certain nombre de critères. Il faut avoir de l'ancrage dans les populations, mais le seul moyen pour le vérifier, c'est d'avoir des élus au niveau national et au niveau local.
Armand Pourou, un autre chef de parti, la DDC, se résout déjà à s'appliquer à la nouvelle réglementation.
Les critères ont été déterminés. Maintenant, c'est à nous de travailler pour pouvoir respecter les critères, c'est-à-dire avoir ne fût-ce qu'un député ou six conseillers et avoir un siège à vous-même, acheté, pas en location. Et je crois que déjà au niveau du siège, la DDC remplit les critères. Nous sommes reconnus par l'administration. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'avoir les députés et les conseil à l'Assemblée.
Mais Clément Mirassa voit différemment des choses. Pour lui, la mauvaise organisation des élections fausse même les partis bénéficiaires.
Du financement des partis ne nous gêne pas. Parce qu'en réalité, la démocratie a besoin de l'argent. Et si l'État peut intervenir pour que les partis évoluent dans un cadre bien défini, c'est une excellente chose. Mais quel parti doit être financé? Dans un contexte où les élections posent beaucoup de problèmes, aussi longtemps que les Congolais vont considérer qu'en réalité, au Congo, il ne s'agit pas d'élection, mais de nomination, et que l'élection n'est qu'une mascarade, nécessairement, ça a un impact sur le problème du financement des partis. Donc, il est bon que le problème soit résolu dès le départ, à travers les résultats des élections, libres, démocratique et transparent.
À l'UPADS, la principale formation de l'opposition, cette loi ne crée pas l'événement. Ce parti bénéficie en effet depuis 2014 des financements publics, mais cumule déjà quelques 9 trimestres d'impayés. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, un influent général a démissionné en accusant le président Salva Kiir de mener un nettoyage ethnique. Les détails avec Idriss Fall.
Le lieutenant général Cirilo Swaka a remis sa lettre de démission. D'après ce haut gradé membre de l'état-major, l'armée gouvernementale a été transformée en une armée tribale par le président Salva Kiir et son entourage. Selon lui, les soldats ont participé à des tueries systématiques, des viols de femmes et des incendies de villages sous prétexte de poursuivre les rebelles. M. Cirilo Swaka, qui est de l'ethnie Bari, est originaire de la province d'Équatoria, théâtre ces 6 derniers mois des pires atrocités. Malgré le déploiement de quelques 12 000 casques bleus, les combats font rage dans plusieurs régions et opposent surtout les partisans du président Salva Kiir de l'ethnie Dinka à ceux fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar de l'ethnie Nuer. Des experts de l'ONU ont rapporté début décembre qu'un nettoyage ethnique était en cours, pointant du doigt les exactions perpétrées par des soldats gouvernementaux. Devenu indépendant en 2011, le Soudan du Sud est plongé depuis décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés.
Au Soudan voisin, du matériel hautement explosif servant à la fabrication de bombes a été découvert dimanche par les services de sécurité dans un appartement de Khartoum après une explosion. L'enquête a révélé qu'un homme a été blessé dans la déflagration alors qu'il préparait des explosifs, selon les autorités. Le blessé est en fuite. La police recherche ce blessé ainsi que plusieurs autres suspects. Au Kenya, 7 représentants syndicaux des médecins kényans ont été écroués aujourd'hui après avoir été condamnés à un mois de prison pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis 10 semaines. Et pour terminer l'actualité américaine, le président Donald Trump reçoit ce lundi le premier ministre canadien Justin Trudeau, rencontre délicate pour ce dernier qui espère trouver un compromis avec son interlocuteur sur le libre-échange et aussi souligner ses points de vue différents, notamment sur la question de l'immigration. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.